Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos moteurs engagés. On commence avec Christophe. Christophe Tillemont qui nous propose chaque mois un aperçu du sommaire du Moto Magazine. Et là, on va parler de 8 décembre, c'est le dernier de l'année. Christophe, voilà. Bonjour.
Tout à fait, bonjour Lamiche, bonjour à toutes et à tous. Numéro 425, hein, donc celui de décembre, alors qui est déjà sorti le 15 novembre. On a eu le temps de le lire, ceux qui en sont abonnés.
Ceux qui sont abonnés.
Vous le trouverez toujours dans les bonnes librairies, dans les kiosques, hein, donc magasin de la presse. Donc, Moto Magazine, j'ai sélectionné plusieurs sujets qui éclairent bien la vie du motard, hein, finalement, puisque l'édito et puis le quartier libre de la journaliste Alexa Pougeux, donc l'édito de Pierre Orluc.
J'ai lu l'édito. Alors là, voilà. Notre pauvre Pierre Orluc, hein, qui s'est fait agresser par une cycliste.
Voilà, hein. Voilà. Alors voilà. On racontera tout à l'heure.
On va raconter, hein, c'est du teasing.
Le
incroyable.
Sujet,
hein.
C'est le partage.
Il s'est fait vraiment pourrir la vie par une cycliste,
tout,
incroyable.
Tout à fait. Mais il n'y a pas que sur les routes, sur les chemins aussi, avec les chasseurs. Ouais. Hein, et donc, on pourra partager nos expériences. On est piéton, on est cycliste, on est peut-être trottinettiste, j'en sais rien. Mais on est surtout motard. Et donc, partager notre partage de la route et des soucis ou de la façon dont on y a répondu. Je vous ferai part de mon expérience. Deuxième séquence, j'ai relevé deux innovations. Vous savez qu'il y a eu le salon de Milan. C'est vraiment un salon mondial qui permet de voir les innovations. Donc, Honda nous prépare pour l'année prochaine, donc la sortie d'une moto tout à fait innovante, je vous en parlerai tout à l'heure, ainsi qu'un équipement aussi qui, en soi, le sujet n'est pas innovant, mais la façon dont il est traité l'est. Et puis, une photo, une histoire, vous savez que chaque mois, Moto Magazine nous illustre en fait une séquence de quelque chose qui s'est passé ou quelque chose d'exceptionnel, en l'occurrence là, un record. Et donc, je fais un peu de teasing. Alors, je vais quand même faire un petit éclairage. Deux Italiens qui font des records un peu débiles, hein, pour vous dire. L'un d'entre eux a fait 24 heures sur un pocket bike Polini.
Dis pas ça, parce qu'on est à côté de nous.
Oui,
là,
oui, oui.
Quelqu'un qui a fait un record aussi.
Il
est l'invité aujourd'hui de l'émission.
Je fais du teasing.
On dira pas son nom. Mais...
Et puis, l'autre Italien, bon, qui est quand même pilote de haut niveau en enduro, qui détient donc le record du monde du saut à moto au-dessus de 43 personnes. Bon,
oui.
J'aurais pas voulu être la 43e. Hein.
Bon,
voilà. Mais on a un invité surprise qui nous parlera de son record.
De son record à lui.
Qui figure, hein, donc, au Guinness Book des records. Et donc, on verra comment ça se prépare et comment on rentre au Guinness Book des records. C'est quand même pas... C'est quelque chose. Une revue de presse que j'ai un petit peu aménagée à ma façon. Je le dis toujours, chaque mois, Moto Magazine nous présente une quinzaine de machines. Là, j'ai regardé, ça va de, en gros, 5 000 à 40 000. Et donc, j'ai ciblé qu'est-ce qu'on peut avoir pour 7 000 euros. Donc, je vous ai sorti des 15, toutes les motos que vous pouvez acquérir autour de 7 000 euros. Une sorte de, voilà, de revue de presse, passage en revue de ces motos. Et chinoises ou pas, hein, on reparlera des chinoises.
Bon,
parce que c'est aussi...
Ou indienne,
oui,
chinoise ou indienne.
Absolument. Ouais. Hein, y a un comparatif de trail chinois. Et c'est, ça, c'est le cœur de Motomag de décembre. Et pour terminer, une rubrique tourisme que j'ai trouvée intéressante, puisque ce n'est pas très loin de chez nous. Hein, c'est à 250 km. Les Ardennes, belges et françaises, la Meurthe et Moselle et la Meuse. Donc, une région vraiment attachante qui n'est pas très connue. Hein, c'est entre Charleville et le Luxembourg. Et donc, je vous en parlerai dans la dernière séquence.
Très bien, merci Christophe. Voilà, l'autre motard engagé, ben, c'est Jean-Yves Balois, oui, de la Fédération Coordinateur. Non, non. Porte-parole, attention.
Porte-parole.
Voilà. Je sais qu'à la Fédé, il faut respecter les...
Justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe à propos des Ardennes, la FDM va préparer une formation au stade virage dans les Ardennes. Sera lieu cet été.
Voilà, Dieu sait s'il y en a.
S'il y en a des virages là-bas.
D'entrée de jeu, c'est dit. Alors, Jean-Yves, est-ce que ça va bien, la Fédé 59 en ce moment?
C'est
la fin de l'année 25, on va commencer les 26. Mais
oui,
est-ce qu'on commence bien?
On va essayer de bien commencer déjà en prenant son adhésion. Ensuite, je rappellerai aussi le phénomène de lobbying. et qu'on est dans un monde pourri qui est comme il est, mais de toute façon, si on ne fait pas de lobbying, on se fait bouffer. Et donc, je vous parlerai du travail de lobbying de la FFMC, de la FIMA auprès du Parlement européen. Et ensuite, en deuxième séquence, je vous ferai un petit exposé sur le guide juridique du motard boycotteur de CT. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir si vous faites participer effectivement au boycott. Et donc, y a des tas de petits conseils que je vous présenterai à ce moment-là.
Écoute, Jean-Yves, on est impatient de t'entendre. Hein, voilà ce que tu vas nous dire. Très bien. Cette émission vous est proposée par l'association des motards de Kikinkout et Tupal. À la technique, on salue notre pilote d'émission. C'est qui les pilotes d'émission?
Laurent. Hein,
c'est Laurent, forcément.
Bonjour, Laurent.
Et voilà, il dit bonjour quand même. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Et à tout de suite.
It sure has been a party, hasn't it, baby? We've really been down that road a time or two. We checked into the best hotels from San Francisco to Paris and lived like royalty, me and you. But remember years ago in that church in Ottawa, we told God of our love and asked for His care. And so He made us happen and He blessed us. So if we were in the fold or out, He was always there. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh, baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight. It's funny how we never settle down, though we love our home and sitting by the fire. But we can't be at home for 3 days till we get itchy feet, and people always ask, when are you gonna retire? But your people have always been my people, and you have always gone wherever I go. And when it's all over, I hope we will go together. I don't want you to be alone, you know. And I love you tonight, even more than I loved you in the 60s. And I know that we are right, even more than I knew it in the 70s. Oh, baby, ain't we a sight? Can you believe we made it through the 80s? And will we make the millennium? Well, we might. I love you tonight.
Le magazine de la moto sur campus, c'est tous les dimanches à partir de 11h. Christophe, on commence avec l'édito de Pierre Orluc pour ce motomag de décembre.
Oui,
alors Pierre Orluc, il s'est fait agresser. Il roule en moto. Hein.
Oui.
Tous les jours, il va au travail en moto et il s'est fait agresser par une cycliste. Il s'est fait même hurler dessus. C'est marqué dans l'édito.
Oui, oui. Alors, le titre de l'édito, Urgence. Bon, déjà, c'est très générique. Hein, qu'est-ce que ça revêt ? Et effectivement, il nous raconte la mésaventure qui lui est arrivée. Donc, Pierre habite évidemment sur la région parisienne, un peu à l'écart de Paris, et de l'autre côté de Montreuil. Hein, parce que je rappelle que le siège de Moto Magazine est à Montreuil. Et donc, comme partout dans les grandes agglomérations, on restreint la place de la voiture et des motos. Hein, je rappelle que les motos ne sont pas autorisées dans les voies de bus, encore moins dans les voies cyclistes. Et c'est là l'origine, effectivement, de la mésaventure de Pierre, qui a eu la malencontreuse idée de passer la tête et le buste.
Non, c'est parce qu'il y avait
un ralentissement.
Un ralentissement, les voitures étaient arrêtées. Ah. Et il se demande pourquoi ces voitures sont arrêtées. Il va passer la tête, le buste, oui, la tête. Et puis, il va prendre un petit peu, 20 cm hein, sur la...
Oui. Une cycliste, c'est une voie réservée. Ici, vous n'avez rien à faire là.
Oui, voilà. Et là, d'un seul coup, il s'entend crier dessus.
Bon, ce à quoi, bon, plus loin, il rattrape la cycliste et puis qu'il lui fait remarquer qu'elle a brûlé le feu rouge. Hein, on en parlait hors antenne. Jean-Yves, les cyclistes ont la propension à brûler les feux.
Ça n'existe pas pour eux.
Voilà. Et ce à quoi elle lui répond, tu vas pas me chercher, hein, je connais le code de la route. Voilà. Bon, tout ça pour dire, vous rappelez, il y a 2 mois, j'avais fait un écho de retour de Canada. Que je connais bien, où Philippe et Frédéric étaient allés faire un reportage et qui parlaient du certain flegme anglo-saxon qu'on connaît. Mm-hmm. Hein, au Royaume-Uni, Jean-Yves, avec ta roquette. Donc je pense que c'est partagé. Et effectivement, on évoque la road rage, littéralement la rage au volant ou au guidon, hein, quand le simple fait de circuler à moto, en voiture, à scooter, à pied ou à vélo peut devenir un quasi-combat quotidien. Et donc c'est vrai que ce partage de la route, on a tous une anecdote à raconter ou à avoir été témoin de ce genre de comportement. Et là, on évoquait, pas plus loin que autour de notre lieu d'enregistrement, la présence de ces voies cyclables rouges qui semblent donner en fait aux cyclistes la priorité, qui n'est pas toujours. Et donc, c'est toute la difficulté, elle est de gérer ces conflits d'usage qui sont de plus en plus récurrents.
Mais dis donc, Christophe, il me semble que tu fais beaucoup de vélo aussi, toi.
Oui, oui.
Alors,
tu te
comportes comment en vélo?
Alors, écoute, moi, j'ai une certaine zénitude qui m'a valu le fait de pouvoir stopper. Hein, il se trouve que j'ai failli être agressé. Et quand le passager descend...
En voiture,
j'étais à vélo. Voilà, ouais. Oui. Il n'a pas apprécié en fait un comportement que j'avais pu avoir quelques minutes avant, et donc au feu, il m'a rattrapé. Il est descendu de voiture, et j'ai cru que j'allais m'en prendre un. Et son passager est descendu, et avant que le passager arrive à sa hauteur, il s'est retourné en disant « Laisse tomber, il parle bien ». Donc, j'avais gardé mon calme.
C'est curieux,
La force de la parole.
Le poids des mots, c'est ça.
Voilà. Donc, mais bon, en randonnée, justement, je venais en Mayenne, un pays que tu connais bien.
Oui.
Et puis un vendredi soir, je me suis retrouvé face à face à une voiture dans un rétrécissement de voirie. Elle a doublé toute la file de voitures qui était arrêtée, qui me laissait passer parce que j'étais prioritaire. Et je me suis retrouvé avec une voiture en face. Là, j'ai eu peur. Bon, ceci dit, ça a duré quelques secondes.
Hein,
bon, il n'y avait rien à faire, à part se serrer pour ne pas passer sur le capot de la voiture.
Voilà.
Donc, et en moto, ma foi, j'ai jamais eu de soucis, mais je suis un petit rouleur, moi. Je sais pas, Jean-Yves, toi qui fais du kilométrage.
Non, de toute façon, on constate exactement le même phénomène entre moto et voiture ou moto et poids lourd. C'est toujours le plus petit qui trinque.
Alors voilà, l'article se termine comme ça. Hein. Nous nous engageons pour que la vie l'emporte sur la violence. Nous nous mettons à la place de l'autre. Nous sommes attentifs à chacun. Nous savons qu'aucun déplacement n'est roi. Et nous utilisons notre permis de sourire pas de faire la gueule.
C'est un slogan, et c'est là où Pierre le rappelle, d'une campagne donc de la sécurité routière qui a été menée du 15 au 21 octobre dernier, campagne de mobilisation placée sous le signe du respect. Et donc c'est bien là, et en écho justement à ce qui est écrit dans l'édito, le quartier libre, donc là c'est la dernière de couverture si vous voulez, donc l'article de Alexa Pougeot,
c'est pareil, hein,
qui évoque exactement la même chose, situation, hein, avec des quadeurs là, qui étaient en reconnaissance, qui se retrouvaient...
Là c'est pire, hein, parce qu'il y a un triangle avec un sanglier, il y a marqué « chasse en cours ».
Voilà. Donc là pour le coup, le chasseur...
Et pas chasse à cours.
Le chasseur qui avait armé son fusil et qui a tiré effectivement... au-dessus, heureusement, mais il a été condamné donc à 6 mois de prison avec sursis, interdiction de port d'armes, retrait du permis de chasse pendant 2 ans et 500 euros de dommages et intérêts à chacune des deux victimes au titre du préjudice moral. Donc, vous voyez, il y a une condamnation.
Oui, mais ça doit être extrêmement rare d'avoir un flic pour constater les faits. Alors, à proximité.
On ne dit pas trop, effectivement, les circonstances dans lesquelles ça a été amené au tribunal. Mais effectivement, en tout état de cause, c'est la même chose entre les cyclistes, simplement, qui font de la randonnée sur des chemins de randonnée et qui dévalent les pentes. Les codés verts, là, puisqu'il y a quand même une éthique dans la façon de pratiquer les loisirs verts sur des chemins, et effectivement qui sont ouverts aussi aux piétons et aux cyclistes, éventuellement. De toute façon, le faible a toujours raison sur le fort. Le problème du vélo, tu renverses un cycliste à un feu, il a brûlé le feu rouge. Je crois que tu as la responsabilité.
Oui, exactement.
Voilà.
Et un truc tout à fait con, à Villeneuve-d'Ascq, là où j'habite, il y a beaucoup de petites ruelles. Et moi, je les empruntais à vélo parce que ça permettait des raccourcis. Et on m'a fait remarquer un jour que il y a le panneau interdit à tout véhicule et que le vélo est un véhicule. Et que donc, on n'a pas le droit d'aller en vélo dans les petites ruelles où il y a ce panneau interdit à tout véhicule.
D'accord.
Et donc, vraiment, le code de la route est très mal connu. Oui.
Est-ce que l'article-là, hein, est-ce que ce n'est pas le reflet un peu de la société, l'individualisme, l'égoïsme, finalement, dans tous les domaines de la société? C'est comme ça.
C'est le partage et le vivre ensemble, hein, effectivement.
C'est pas que sur la route, et c'est pas que entre les usagers, voitures, motards, camionneurs ou trottinette ou ce qu'on veut, mais de toute façon c'est ça, c'est moi et les autres je m'en fous, quoi.
Il suffit de voir les réseaux sociaux et surtout les commentaires sur les événements qui peuvent être décrits dans ces réseaux sociaux. Vous avez toujours des shorts là, et puis derrière vous avez les commentaires, et effectivement c'est assez édifiant. Voilà, donc vous retrouverez édito et quartier libre. Vaste sujet, hein, on ne tente pas d'y répondre, mais on a tous une histoire à raconter sur le sujet, ça c'est clair.
Bon, on passe à un morceau de musique et après on va parler de cette fameuse ondole à compresseur, là.
Voilà.
Électronique, je crois, c'est ça. Électrique.
Électrique, oui.
Voilà. C'est commandé toujours par l'électronique.
Voilà, et on passe à un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Yes. Thank you.
Voilà, Christophe, on va parler de cette nouveauté, la Honda, hein, cette fameuse. Ça vient de Milan, hein, on l'a vu.
Oui, alors, au passage, Honda est un des rares constructeurs non chinois à progresser dans ses ventes de l'année dernière par rapport à cette année. Et ils innovent encore, justement, voilà, alors, avec le salon de Milan.
C'est un 3 cylindres. Et là, on va demander à notre spécialiste, Jean-Yves, hein,
voilà,
en mécanique. Alors, 3 cylindres en V à 75 degrés, avec deux devant et un derrière.
Ça, c'est déjà existé. Donc bon. Là, il n'y a rien. Les architectures modernes qui veulent recréer de l'ancien, il n'y a pas de problème.
Et les 3 cylindres chez Triumph, on connaît. Hein.
Ah oui, mais pas placé comme ça.
Oui,
pas
oui.
Placé en porc-épic.
Non, mais en porc-épic, comme tu dis.
Alors,
mais l'originalité dans cette histoire, voilà, c'est quoi? C'est pas ce moteur.
C'est le turbo.
C'est qu'on l'équipe d'un compresseur.
Et là, je pense que tu dois demander, Christophe, notre spécialiste en mécanique.
Voilà. Contrôler.
Pourquoi électriquement?
Voilà,
oui.
Exactement, parce qu'il faut savoir qu'un compresseur commandé par les gaz d'échappement, la plupart des compresseurs, même toutes jusqu'à maintenant, c'est que ça a très mauvais rendement à bas régime. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un compresseur si votre moteur tourne à 2000 tours. Et par contre, à très haut régime, si vous êtes à 12 000...
Un peu moins que ça quand même, hein, vers 6-7 000. Hein.
Ça envoie.
Là, ça commence à envoyer. Oui, là, tu sens que c'est un compresseur.
Il envoie trop. Ah, donc, oui. Moralité, vous n'avez pas une pression d'admission qui est constante. Alors que si votre compresseur est alimenté par un moteur électrique, à ce moment-là, vous pouvez facilement le réguler pour avoir une pression d'alimentation constante. Et donc, vous avez une réponse bien plus franche à tous les régimes.
Voilà. Alors, vous avez les photos, d'ailleurs un peu masquées. Hein, c'est comme tous les prototypes. Pour l'instant, c'est pas encore en production, mais ça devrait sortir. Alors, elle est asymétrique. Il y a une espèce de bosse là sur le réservoir qui fait qu'elle est plus large à gauche qu'à droite.
Oui, c'est une bosse. Ah.
Le marketing technique, c'est contrôle précis du boost du moteur avec une belle réponse du couple dès les plus bas régimes, les performances équivalentes à un 1200 cm3.
Alors c'est un 900 cm3 avec les performances d'un 1200.
Voilà.
C'est l'avantage. Et
sachant qu'aujourd'hui en 1200 on arrive à sortir 150 chevaux, je te dis pas.
Mais par contre, faut pas oublier que la consommation elle suit. Hein.
Ah voilà.
Il y a rien de neuf. Si vous brûlez une certaine énergie dans l'essence, vous la récupérez mécaniquement, mais plus vous voulez d'énergie, plus vous consommerez.
Jean-Yves, aussi, tu nous dis qu'un turbo classique, en fait, il faut utiliser des matériaux qui résistent à haute température.
Comme il est entraîné par les gaz d'échappement, quasiment les ailettes de turbo sont à 400-500 degrés, donc c'est pas de l'acier à faire les chevaux. Et donc, ça coûte un turbo mécanique entraîné par les échappements, ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer qu'un simple ventilateur. Hein, sans être trop préjuratif, entraîné par un moteur électrique tout bête.
Bien, merci Jean-Yves de ces éclairages techniques. Alors, en ce qui concerne donc juste une information sur un équipement, j'ai relevé, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, Alpine Star donc, qui sort un airbag sans abonnement, parce que pour moi les airbags étaient toujours avec l'abonnement. Bon, c'est quand même premium. Hein.
Tu peux nous préciser pourquoi il y a un abonnement sur les airbags?
750 euros. Alors, je...
Il y a un entretien.
Oui, il y a la cartouche. Alors,
la cartouche, tu la changes soi-même.
Oui, justement. Celui-là, oui. c'est une spécificité
c'est
de
une,
ce modèle.
Une exception.
Voilà. Alors mais que la plupart du temps, effectivement, il faut les faire changer.
Il faut envoyer chez le fabricant pour un test. Alors, aussi bien ceux commandés électroniquement que ceux fil. Et donc, comme tout, l'entretien, ça se paye. Et puis, c'est pour ça aussi, vu le prix, c'est le gros frein au développement de l'airbag.
Ça, on sent arriver, Jean-Yves. Hein, l'airbag obligatoire. Hein,
le gilet airbag. On sent arriver, oui. Et puis par le pantalon airbag.
On va dire le gilet gonflant, ça nous gonfle. Hein.
Les bonhommes niches. Hein.
Voilà, on sent arriver.
Tu l'as placé. T'es content.
Bon, voilà. Alors, est-ce que nos pilotes, dont je parlais tout à l'heure, ont battu un record du monde de tours de circuit, alors circuit terre, sur un scrambler Ducati, donc deux Italiens, qui ont tourné 1462,114 km. Ils ont fait 1158 tours de circuit. Ils ont dû avoir quand même la tête à l'envers.
Ah, tu mets quand même utile ou futile.
Oui.
Est-ce que vraiment...
Alors,
à quoi ça sert
c'est,
et pourquoi faire
ça? C'est record. Je vous ai dit les deux catégories de records qu'ils ont été amenés à battre. Je rappelle que ce pilote-là, Silvio Sabba, il détient 662 records en 12 ans. En tout genre.
Oui.
Et donc, 180 sont toujours valides. Alors, moi, je vous ai trouvé une pépite hein, qui est à côté de moi.
C'est une pépite parce qu'il habite pas loin, donc il est venu, il est passé aujourd'hui.
Voilà,
parce mais il a fait un record aussi.
Parce que je me suis dit...
Bonjour Xavier.
Dans le Guinness
parce
des records,
quand même, faire du
il y en a qui se souviennent pas, parce que c'est collector quand même. Un record de 40 ans. Hein, quand même. Hein, 40 ans. 1985.
Qui 40 ans
Xavier.
Ah oui, Xavier, oui, oui.
Non,
sûr.
Il n'a pas 40 ans, Xavier
non,
Couteau.
Non, bah non.
Parce qu'il s'agit de Xavier Couteau. Alors, on le connaît bien ici, hein, puisque on l'a accompagné, et il nous accompagne aussi à l'Enduropal Vintage au Touquet. Mais sa carrière de crossman, elle commence bien avant l'Enduropal. Et donc, en 1985, Xavier, qu'est-ce que tu as entrepris?
Écoute, j'ai entrepris un... J'ai voulu faire un test de résistance.
Ah oui.
Avant tout parce que tu demandais pour quelle raison on peut le faire. Il y avait quand même une raison au départ, c'était pour essayer d'obtenir un budget pour courir le Paris-Dakar.
Ah voilà.
J'avais déjà couru le Rallye du Maroc, l'Atlas, pour lequel j'avais été sponsorisé. Et là, le budget pour le Dakar, c'est autre chose. Et donc je m'étais dit pourquoi pas, et puis j'aime beaucoup les défis, j'en suis pas au premier, et puis je me suis dit allez on va faire un test sérieux là-dessus quand
alors,
même malgré tout.
L'idée c'est toi, t'as une équipe autour de toi,
oui.
Et c'est quoi l'objet? Qu'est-ce qu'il fallait réaliser?
Mais écoute, j'avais, comme je suis crossman comme tu le disais, j'ai décidé de tourner sur un circuit de motocross, qui est celui du motoclub d'Arleux, qui était mon motoclub à cette époque. J'ai décidé donc de tourner le plus longtemps possible, sans savoir très bien où j'y allais. Je sais pas, j'avais aucun doute là-dessus.
Donc t'entreprends ça, t'es le seul crossman sur le circuit.
Oui, oui.
Mais t'as une équipe autour de toi.
Il y a une équipe et puis aussi
une moto, enfin.
Et huissier.
Alors,
huissier.
Quelle moto?
C'est une KTM 420.
Voilà, que le constructeur a mis à ta disposition.
Que le constructeur, à ce moment-là, Yves Cosson de Royal Moto, a mis à notre disposition, sachant que mon frère Manu Couteau, que tout le monde connaît, préparait à cette époque-là les motos pour Van der Ven.
D'accord.
Pas la peine de présenter Van der Ven, hein, qui a gagné 4 ou 5 fois le Touquet. Voilà, donc une équipe médicale aussi. Parce que je voulais joindre l'utile à l'agréable et que ça ne serve pas à rien, sinon d'essayer de m'apporter un budget. Et donc il y a toute une équipe médicale qui s'est montée autour de moi.
À quelle époque de l'année vous faites ça?
Alors mon premier record s'est fait en 83, en juin 83. Hein, et donc j'ai trouvé des sponsors assez bien. Mammouth à cette époque-là, qui avait les supermarchés dans la région de Douai, les caravanes Sterkeman par exemple, qui m'ont prêté 4-5 caravanes pour louer tout le staff, les médecins, etc. etc. Et beaucoup d'autres que je remercie encore aujourd'hui. Et donc je me suis lancé sans savoir très bien où j'allais.
Oui, alors tu parles de 83,
oui.
Il faut rappeler donc effectivement tu tentes. Enfin, tu réalises un premier record,
oui,
mais tu resserres le couvert.
Alors,
ans après.
26h35, on avait essayé de faire un test nourriture aussi pour voir. J'ai grossi pendant ce test, donc on s'est loupé au niveau de la nourriture lyophilisée parce que je ne pouvais que manger sur la moto, donc c'était pas évident. Des douleurs d'estomac, intestin assez vifs, donc... pas mal de difficultés. Donc à cette époque-là, donc 26h35, ce qui représentait, pour donner un avis, 13 000, parce que ça a été comptabilisé par huissier, 13 725 virages, 3294 montées et descentes, 2196 tremplins, 1098 double marche.
Bon,
voilà.
Xavier,
oui,
mais tu me disais hors antenne, ce record, il n'a pas tenu longtemps.
Non. Il a tenu, mais moi, je n'étais pas content de moi.
Ah.
Je me suis dit, il y a moyen de faire mieux. Hein, là, vraiment, c'était l'aventure. J'avais quand même fait 700 km sur un circuit de motocross.
Ton journée, c'est 24 heures et toi, tu avais 26 heures.
Donc, j'ai remis le couvert et j'ai établi un nouveau record à 31 heures, 17 minutes.
Ah oui.
Qui, record, a été battu quelques temps plus tard par un motard qui l'a fait sur un circuit non homologué et pas sur le même circuit, et c'est un circuit beaucoup plus roulant,
ouais.
Donc ça n'avait rien à voir. Alors là, ben, je me suis dit, il n'y a pas, hein, et je ne peux pas laisser ça en l'état. Donc j'ai fait un troisième record.
J'ai remis une louche,
37 heures. Là, j'ai plus jamais entendu parler de personne. Je sais qu'il y en a qui ont essayé. Il y a des motards qui s'y ont mis à deux.
T'as écrasé la concurrence.
À deux ou trois. Et bon, au bout de 12, 15 heures, ils ont dit bon, ça va.
Ras-le-bol.
On va rentrer à la maison.
Ouais.
Donc là, c'était assez. Là, c'était 18 550 virages, enfin 4 400 montées et descentes.
Pire en
pire. Bon, ouais, mais c'était vraiment.
Et dis-moi, pipi caca, comment tu fais alors?
Ah ben, il n'y avait pas de caca. Hein. sauf au premier record où il y en a eu beaucoup, par obligation. Mais là, on ne s'est pas loupé du tout avec les médecins et autres au niveau nourriture. On ne s'est pas planté du tout. Je n'ai pas pris un gramme. Et je n'ai pas maigri non plus pendant un tel effort. Ça veut dire qu'on s'est bien, organisé pour tout ce qui était nourriture.
On ne s'endort pas sur la moto.
Alors là, bah, c'était parfois, j'étais à côté de la plaque. Hein, c'est-à-dire qu'à un arrêt, j'ai dit à mon frère, écoute, là-haut, tout est inondé, je roule dans l'eau, il faudrait peut-être un petit peu pomper l'eau. Et mon frère m'a dit, bon, il s'est rendu compte que j'étais à l'ouest.
En fait, il n'y avait pas plus du tout, il n'y avait pas d'eau.
Non, il n'y avait que de la poussière là-haut.
C'est toi qui avais vu de l'eau.
Je roulais dans l'eau.
Ah, ouais. C'est un petit peu que dans le désert, un peu, oui, les mirages.
Bon, et une autre fois, je lui ai dit, écoute, il y a les cailloux qui sautent, il y a les cailloux qui traversent la piste, oui. Là-haut, il y a des cailloux qui sautent comme des grenouilles.
Ils sautent, les cailloux sautent.
Ils n'ont pas le permis.
Et ils t'ont laissé continuer à tourner sur le circuit.
Alors, justement, mon parrain qui est Toubib et qui organisait l'équipe médicale, à un moment, ils se sont dit, bon, il faut surveiller parce qu'il va arriver, il va se jeter dans le vide, dans les descentes.
Ah oui.
Ben oui, parce qu'il fallait que je maîtrise quand même la moto dans les montées et les
descentes. Oui, bien sûr.
Et ils ont hésité un moment, à la 30e heure, 32e heure, ils ont hésité, puis ils ont dit, bon, ça va passer. Et heureusement, ils ne m'ont pas arrêté. Hein, donc là, ben, j'ai établi plus de 1000 km.
Tu prenais quelque chose, non?
Un petit truc.
Ah oui.
J'ai subi plusieurs prises de sang et jusqu'à
un petit stimulant, je sais rien.
Stimulant, c'était les amis, c'était la famille.
Ah oui, d'accord.
Qui organisait un petit peu une fête autour de tout ça pour me donner le moral, y compris après que certaines photos dont je ne donnerai pas le détail.
Bon, bah dis donc, après tout ce que tu nous racontes, effectivement, tu aurais pu avoir ta photo, une histoire dans le journal.
Et tu es dans le Guinness? Le record est dans le Guinness.
Alors oui, j'ai dit 1985, le record est de 84, il a été homologué et il est effectivement dans le Guinness Book des records de 1985, l'année de l'édition.
Alors que les Italiens, une journée sur une bécane qui...
Sur une pâture, sur un circuit plat.
Franchement, c'est à la portée de n'importe quel motard un peu endurant.
Hein. Oui, là, c'est 1000 km sur circuit de motocross.
À deux.
C'est la lassitude. T'imagines que tu fais combien de tours de circuit que t'as fait?
Je ne sais plus. J'ai dû faire 700 ou 800 tours d'un circuit de motocross.
T'imagines? La même chose.
Avec les difficultés rencontrées sur circuit de motocross.
Il y a un chiffre que tu n'as pas donné qui donne là 14 000 changements de vitesse. Mais là...
Alors là, je ne te dis pas, moi, sur un circuit... Oui, parce que sur un circuit ovale, dans une pâte.
C'était des motos qui n'avaient pas le clunch-clock.
Effectivement.
Tu aimes bien Jean-Yves, là.
Et la KTM, aucun problème. Ouais. Donc, super bécane.
Bon. Merci Xavier de ce partage. Hein. Au moins, l'ami écoutera la radio. Il découvrira donc pas très loin de chez lui. Il y a un recordman du monde.
Je le connais depuis longtemps, mais je ne savais même pas qu'il avait fait ce record.
Voilà.
Allez, on passe à un morceau de musique et après, on se retrouve juste après.
Got to go to school. Boy, you got a free ride. Enjoy it.
Bon, Christophe, tu vas nous parler des nouveautés 2026, enfin des nouveautés qui sont dans le Motomag
de
décembre.
Effectivement, son salon de Milan, ça a été l'occasion de présenter un tas de nouvelles motos et d'équipements. Donc on retrouve évidemment ces motos dans Motomagazine. Je disais, chaque mois, vous avez 15 motos qui sont présentées. Alors là, j'ai voulu sélectionner, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la fourchette de prix à 7 000-7 500 euros? Je disais, il y a un comparatif de trail. Alors là on tape un peu plus haut, hein, les trails chinois, où on est plutôt autour de 10 000. Il y a la zone test qui est un petit peu en dessous à 8 000, mais je les ai mis à part. Donc je vous en parle parce que c'est quand même un comparatif intéressant, surtout que les Chinois, aujourd'hui, ils sont des chiffres en augmentation sur le marché à deux chiffres, par rapport au marché dont je parlais tout à l'heure, qui marque le pas pour certains constructeurs. Alors, dans les nouveautés, chez Kawasaki, je ne sais pas si vous vous souvenez des trails de moyenne cylindrée, la KLE 500. Donc ça fait une trentaine d'années qu'elle n'avait pas vu le jour. Elle ressort aujourd'hui évidemment en version modernisée pour un budget donc entre 6 500 et 7 000 euros. Donc un trail sans prétention, mais qui a quand même l'avantage de pouvoir être utilisé pour aller travailler, pour se balader le week-end et pour faire du tout chemin. Donc le trail Kawasaki KLE 500. Chez Kawasaki, toujours, vous avez la Z650. Alors c'est marrant, c'est sur cette moto-là que j'avais appris la moto, il y a déjà pas mal d'années.
Moi je trouve qu'elle est moins belle que l'ancienne, que celle qui était produite les années précédentes.
Oui, donc là c'est un modèle S. Alors bon, on fait évoluer avec
c'est
un
modèle S.
Oui, avec des équipements, donc toujours un bicylindre en ligne, calé à 180 degrés, un cadre treillis, et puis des équipements effectivement qui la font évoluer, et toujours dans un budget donc 7 500 euros, en général permis à deux, on va trouver quasiment toutes disponibles en à deux. Un nom, Royal Enfield Bullet, ça vous parle ?
Là, il faut faire une pause, parce que notre ami technicien Laurent va s'en acheter une.
Ah, et donc, Bullet.
Alors, il va acheter une Royal Enfield.
Juste un petit poil au-dessus, 7 540 euros. Alors, anecdote, là, elle est en version black. On verra tout à l'heure, il y a des constructeurs qui ont l'art de vous vendre les peintures à des prix de ouf. Donc, sachez qu'une moto noire, ça coûte moins cher, en général. Et donc la Bullet qui se voit affublée donc de 650 V-twin, donc un nom évidemment intemporel, et bien sûr une machine moderne avec le twin vertical qu'on connaît bien chez Royal Enfield. Alors chez les marques premium, il y en a qui ne pouvaient pas rester inactifs face à la montée justement des chinoises, BMW qui avait déjà sa 310 cm3 sort une F450 GS. Donc la signature GS, on la retrouve évidemment avec l'éclairage. Donc le petit bicylindre vertical de 420 cm3, évidemment réglementation à deux. Et ils vont se distinguer par rapport à la concurrence, justement avec des équipements premium, des roues à rayons, la bagagerie, le silencieux à Krapovic. Bon, bref, que du bon. Et on est aussi dans un budget de 7 500 euros. N'est pas BMW qui veut. Donc là, il faut garder son leadership. Et donc BMW s'y est attelé. Alors après, on tape dans les chinoises ou les indiennes, et en l'occurrence ici TVS. Je rappelle que BMW fait produire donc sa 310 avec TVS, échange donc partenariat industriel. Et aujourd'hui, TVS est en mesure de pouvoir produire elle-même ses propres machines. Donc TVS sort un modèle 300, toujours en A2. Là, on est sur des budgets un petit peu en dessous, 6 500 euros. Et vous retrouverez donc dans les pages les productions Zontes également. Donc il sort un 700 cm3 avec 95 chevaux. On en parlait tout à l'heure des puissances, les 95 chevaux. Bon, la mienne, c'est 1000 cm3 à l'époque. Et maintenant, on sort donc des 1200 à 150 chevaux. Bientôt, ça sera peut-être les 900 avec la compresseur de Honda. Alors, toujours dans les marques chinoises, hein, QJ Motors qui nous sort donc la SRK 800 noire. Donc là, prix d'appel 6 800 €. Ça parle. Bon, si vous voulez une couleur, c'est 8 600 €. Hein. Excusez du peu.
Donc, de quoi là, citer des vocations de peintre.
Voilà, donc 95 chevaux à 10 000 tours, 778 cm3, compatible à 2, 47 chevaux, bien sûr. La 600, toujours QJ Motors, la SRV 600 qui passe de V4 à V2, hein, donc on gagne en poids, on gagne aussi en prix, 6 500 €. Je continue, donc je vous ai parlé des... je suis arrivé au bout de ma présentation. Hein, donc je vous disais le comparatif des trails chinois. Et là, on est sur des puissances et des cylindrés autour de 800 à 900 cm3 et toujours compatibles à 2. Donc vous retrouverez ce comparatif trail chinois en cœur de magazine de décembre. Donc voilà un petit panel des motos dans un budget de 7 000 €. Après, en occasion, on trouve des
Éventuellement, Xavier nous a dit qu'il y avait des motos à moins de 6 000 à vendre.
Oui. Hein, elles sont des anciennes. Hein.
Ah, c'est d'anciennes.
Ah, il faut aimer rouler en ancienne.
Hein. D'accord. Bon. Non, mais c'est vrai. Hein.
Mais on parfait, absolument.
On peut téléphoner.
Il n'y a pas de souci. Hein.
Tu vends ton musée, c'est ça. Hein.
Oui.
Voilà.
Ouais, on va peut-être organiser une vente aux enchères. Voilà.
Non, on pourrait faire, oui.
Faut regarder, oui.
Est-ce que la vente aux enchères...
Faire un catalogue.
À l'Enduropal aura lieu cette année.
Il y aura peut-être... Oui, ça a lieu. J'aurai peut-être quelques motos là-bas.
Ah d'accord, très bien.
Bon, voilà. ça se prépare.
Alors comment ça marche? Tu mets un prix plancher
il y a des amateurs. Alors, j'ai appris que non seulement l'acheteur devait payer une surcote de 15 €, mais innovation, le vendeur, on lui pique 15 €.
15%
15% sur le prix total.
Pour vendre, pour arriver au prix plancher, ça veut dire qu'il faut le prix dépasse ton prix plancher 30%. Pour arriver à ton prix plancher, pour espérer avoir ton prix plancher. Donc ça fait beaucoup, 30% sur une bécane de, bécane de 10 000 euros pour des motos de collection, belles motos de collection, il faut mettre 13 000, quoi, peu près. Hein, donc les acheteurs, ça ne se trouve pas sous les sabots d'acheteurs.
C'est plus de la passion, c'est de l'investissement.
C'est de l'investissement, absolument.
C'est vrai que sur les ventes aux enchères de véhicules de collection, je ne parle pas que des motos, hein, des voitures, quelquefois on arrive à des prix qui dépassent l'entendement. Quoi.
C'est pas dans le Motomag de décembre, mais il y a le retour de Norton aussi, hein, Yves.
Oui.
T'as vu?
Non,
t'as pas l'air emballé.
Ils se sont déjà cassés la gueule une fois.
Oui, non, mais là, apparemment, ce sont des Indiens. Non, mais là, c'est un groupe indien qui a racheté le truc. Ah bon. Mais c'est vrai que j'avoue que ça ressemble pas. Quand tu vois la BSA, par exemple.
La Goldstar, par exemple.
Ça ressemble un peu à la moderne. C'est moderne, mais avec une tronche, une gueule qui ressemble à l'ancien. Mais là, par contre, les Norton, non.
Comme les Triumph.
Oui, comme les Triumph, exactement. Moteur moderne, voilà. Mais qui ressemble aussi. Voilà, très bien. Bon, Christophe.
Bon, on a terminé la séquence donc sur ces revues de presse. Vous voyez, il y a que l'embarras du choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de choisir. Hein. Et puis, il y a un vaste débat, on l'a vu encore dans nos rangs, sur l'achat chinois. Quoi. Et il faut reconnaître que les motos qu'ils présentent sont équipées de matériel premium. Hein. C'est vraiment tout optionné.
Mais le gros problème, c'est la revente. Parce que, de toute façon, pour trouver un concessionnaire sérieux, les gens savent te vendre, mais entretenir ta bécane, si tu le fais pas toi-même, c'est un peu difficile.
Christophe, on part dans les Ardennes.
Voilà, on fait une
belge
pause
et française.
Et on reprend la moto.
Faire une petite balade après. Hein.
Voilà.
Enfin, c'est dans Motomag de décembre.
Un circuit. Je l'ai d'ailleurs fait en trace pour moi à vélo. Je me suis dit, après tout, alors bon, il y en a qui ne sont pas des routes, qui sont virages. Je comprends que ça soit des routes à moto, mais on en parle tout de suite après.
Juste après le morceau de musique, allez, à tout de suite. Et si on jouait au yo-yo avec la frontière, Christophe ?
Oui, alors, je dois vous raconter. Bon, je pratique quand même le vélo, vous l'avez compris, et c'est des régions que j'ai traversées. Mais alors là, quand j'ai vu le roadbook, j'ai cherché, je me suis dit, mais où c'est ça ? Je ne trouvais pas les noms des villages qui étaient traversés. Et c'est vraiment une niche. Alors, pour situer, on est entre le JV, Charleville-Mézières, vous voyez la,
on
la,
connaît cette route là.
Non, mais celle-là, on la connaît. Ouais. Oui, celle-là, on la connaît.
On l'a fait en moto.
Et puis, le Luxembourg, mais attention, la province du Luxembourg. Parce qu'en Belgique, il y a la province du Luxembourg et il y a le pays, le Luxembourg. Et donc là, on démarre de la province du Luxembourg à Châtillon pour une balade donc, de 200 km entre Ardennes au singulier. On parle des Ardennes belges et françaises, mais l'Ardenne est Meuse. Et donc, on traverse trois départements, effectivement, Ardennes, Meurthe-et-Moselle et Meuse. Et donc là, vous avez une succession de routes à virage. Donc Jean-Yves nous en parlait. Apparemment, il y a eu des repérages faits pour les VDM.
On a fait une sélection de routes à virage en épingle.
En plus, en épingle. Voilà. Alors, il faut reconnaître qu'il y a un réseau de rivières relativement dense. Moi, je connais la Semois. Hein. Ça a été un berceau de vacances familiales. Et donc, effectivement, des méandres assez impressionnantes. Il n'y a pas que la Semois.
Il y a la Laisse aussi.
Voilà. Donc, on vous invite à la balade et avec le roadbook qui vous est proposé, vous avez une découverte d'un ensemble de villages, de zones nature. Alors, on est très nature, hein, là, en l'occurrence. Là, on nous parle de la Sablière de Châtillon, hein, réserve naturelle avec ses nombreux oiseaux migrateurs. Et on va se balader donc dans la Lorraine Gomaise. Alors, non pas que ça existait, la Gaume. Hein, donc c'est une région transfrontalière entre Belgique et France, évidemment. Et là, on va faire du yo-yo, comme le dit Moto Magazine, ou du saute-mouton. Hein, moi, je parlerai plutôt de saute-mouton, pour découvrir donc ces contrées. Alors, parmi les villes les plus connues, et là en France, on va aller se balader à Longwy. Longwy, malheureusement, qu'on a beaucoup connu dans les années 90 avec le démantèlement de la sidérurgie.
Oui, métallurgie, oui.
Voilà, tout à fait. Et donc la ville de Longwy qui se caractérise par une ville basse et une ville haute, et donc des villes fortifiées. Et donc pour les amateurs d'histoire, vous découvrirez donc la partie haute de la ville, son attrait touristique, les fortifications de Vauban et les plans de cette ville nouvelle. Alors c'est amusant, on parlait déjà de ville nouvelle en 1679, n'est-ce pas, date à laquelle effectivement notre ingénieur Vauban a travaillé sur les plans donc pour investir cette colline située à quelques centaines de mètres de celle qui accueille le château médiéval et qui trône donc maintenant sur cette zone. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire ? Les amateurs de grandes étendues seront aussi servis, puisque on parlait des rivières. Donc vous avez de larges routes, vous remontrez les cours d'eau, un coup rive gauche, un coup rive droite, et pour arriver à Montmédy. Hein, voilà. Donc Montmédy. Est-ce que ça vous parle ? Surprenant, ouais. Montmédy.
Est-ce que c'est vous qui repassez vos chemises et tout ça, les maillots, tout ça chez vous ?
Repassage.
Le repassage.
Oui.
Non. Oui, c'est vous, non ?
Non, mais maintenant.
Jean-Yves, non ?
Maintenant, il y a des machines à presse.
Non, parce que là, c'est insolite. on nous propose le musée des fers à repasser.
Ah repasser. Oui. Ah
hein,
oui.
Le musée. Je ne me trompe pas là. Hein.
Ah.
Non,
et alors
ça te surprend, hein.
Oui.
Tu voulais pas parler de ça?
Non, je l'avais chaté complètement.
Moi, je trouve que c'est marrant.
Oui.
Le musée des fers.
Alors, moi, par contre, je m'étais arrêté sur les vitraux majorelles, parce qu'en fait, justement, c'est un livre d'histoire sur l'histoire de la sidérurgie et des aciéries, effectivement, avec ces vitraux qui racontent en fait tout le passé industriel, alors des styles. D'un style art déco, donc un alors ça c'est à Longwy, hein. Oui, j'étais passé à Montmédy, mais on reste à Longwy, et donc vous avez vraiment une caractéristique à découvrir de ce monument historique, donc de ce célèbre créateur de vitraux, hein, dans son atelier.
Bon, en tout, ça fait 200 km, hein.
Alors oui, Montmédy qui se caractérise donc par sa citadelle qui trône au sommet d'un promontoire rocheux. Hein, donc, elle domine la ville depuis le XIIIe siècle. Et c'était les Pays-Bas, hein, ça, avant d'être française. Et donc, c'est effectivement encore Vauban, décidément, on le trouve partout, qui va fortifier toujours... là, c'est 1659, hein, donc quand Montmédy devint française. Donc, et on retrouve, alors, photo à l'appui et caractéristiques de places médiévales, mais surtout village provençal. Hein, alors, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, à un moment donné, on passe à Saint-Rémy. Alors, pas Saint-Rémy de Provence, mais Saint-Rémy, et avec toutes les caractéristiques donc de la Provence belge. Hein. Donc, il y a des contrées comme ça qui vous téléportent, transportent dans des régions qui sont bien loin de leur base. Ah, avec le changement climatique, peut-être.
Ça va venir.
Alors, sincèrement, oui, il y a quand même un microclimat, puisqu'on y trouve des vignes. Hein, et les caractéristiques, ils entretiennent également avec des façades jaunes, comme quoi, pour donner l'illusion, hein, on peut arriver effectivement à intéresser. Donc, une boucle de 200
km. Dans Motomax, c'est marqué là-bas la petite Provence belge, tu vois.
Oui.
Donc, microclimat, oui.
Donc, 200 km, je pense que. entre nous, quoi, à quitter un coup, hein, on va essayer de s'organiser.
Oh, c'est jouable. Est-ce qu'il y a des restos le...
tout de suite, les avis là.
Ah oui, le roadbook où manger.
Où manger.
T'as quand même 6 adresses différentes. Et où dormir, là, t'en as qu'une. Bon,
t'oublies le principal.
Pour 15 personnes.
Le principal. Ah non. Voilà.
Et puis il y a des campings, hein, les Belges, c'est comme les Pays-Bas, il y a des petits campings partout. Hein, bon, alors
il y
après,
a une auberge de jeunesse à Bouillon.
Ah,
aussi.
Voilà.
C'est là où on va se baser.
Oui, il y a aussi une citadelle avec une prison. Mais enfin, bon, là, je ne dis pas les cellules.
Jean-Yves, tout de suite, vite fait, alors, vous prévoyez une formation, c'est ça?
Oui, une
formation
un
FDM.
Virage en épingle.
Dans les Ardennes.
Parce qu'effectivement, on organisait avec la FDM des stages montagne, mais il fallait descendre à Barcelos, donc c'était quand même assez compliqué pour avoir des stagiaires. Et là, dans les Ardennes, on espère quand même en avoir plus facilement.
Ah ben, tu me donneras la date, moi ça m'intéresse. Oui. Alors, pour terminer...
Tu vas encore refaire un stage
Oui, mais des virages.
On
n'a pas beaucoup fait le virage dans le premier.
Tu as fait un stage, mais en ligne droite.
Oui.
Donc maintenant, tu vas faire un stage en virage.
Bah oui, pour voir si elle tourne bien. Non, plus sérieusement, pour terminer la séquence, si vous faites cette sortie de balade entre Ardennes et Meuse, vous terminerez donc à Chassepierre. Et à Chassepierre, au mois d'août, vous avez un festival de l'art de la rue qui attire 25 000 spectateurs. Donc c'était la 51e édition là, cette année. Entre le 16 et le 17 août dernier. Et donc, visiblement, ça a une renommée mondiale. Donc, c'est pas très loin de chez nous. Mm-hmm. C'est à Chassepierre.
Et
c'est tout petit.
À Charleville-Mézières, c'est la capitale mondiale de la marionnette.
Ah,
il y a aussi un festival qui...
Il y a des trucs à voir. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est une belle région. Et c'est une région à Virolo. Et donc, engagez-vous avec la FDM.
Tout ça, c'est dans le Motomag de décembre. Hein,
décembre.
Le dernier de l'année 2025. Voilà. Alors, 7 balles au kiosque est moins cher à l'abonnement.
Oui. Alors, j'ai pas vu.
Je me souviens plus combien que c'est l'abonnement.
Il n'y a pas la mère Noël, mais peut-être qu'on l'aura au mois de janvier.
Justement, je vais vous en parler de l'abonnement au Motomagazine.
D'accord, voilà. Donc, allez, on passe un morceau de musique et juste après, on parle de l'abonnement à Motomag. Musique.
Put you in a trance and do
Jean-Yves, je crois qu'il va falloir sortir le chéquier à la FFMC.
Effectivement, c'est la nouvelle année qui commence bientôt et le problème, c'est notre slogan. Tous unis, c'est plus fort. Et donc, il faut adhérer à la FFMC. Et cette année, comme l'année dernière, la cotisation est de 42 euros. Alors 42 euros, effectivement, il y en a qui trouvent que c'est relativement cher, mais la FFMC étudie une mensualisation de ces 42 euros.
On pourra payer en plusieurs fois.
En mensualisé. Et sur le site adhésion-ffmc-asso.fr, il y a les bulletins d'adhésion. Et donc, c'est 42 euros minimum, on peut mettre plus. Et je profite pour signaler que Moto Magazine fait justement une 500 promos d'abonnement cette année. C'est à voir aussi sur ffmc.asso.fr, l'offre spéciale adhérent. Alors c'est un abonnement papier pour 10 numéros, c'est 10 euros, et la version numérique c'est 6 euros, mais c'est réservé aux adhérents à jour de cotisation. Donc si vous voulez continuer votre culture moto participative et luttante, adhérez.
Ça veut dire que si t'es pas abonné à la Fédé, si t'es pas abonné à Motomag.
Non, c'est si t'es pas membre de la FFMC,
oui.
Tu n'as pas droit à ces promos.
D'accord. Et donc il faut que tu montres que tu sois adhérent à la Fédé
pour avoir cette promo. C'est pareil. Voilà. Dans une association militante. C'est normal que les promos soient réservés aux adhérents militants.
Bien sûr.
Donc, c'est la moindre des choses. Alors, justement, je voudrais aussi vous parler un peu du lobbying. Parce que, on nous dit assez souvent à la FFMC, vous organisez plus de manifs, au moins ça bougeait. Alors, le problème, c'est qu'on s'est aperçu que les manifs, c'est relativement contre-productif. Parce qu'il y a toujours une paire de jeunes cons qui s'amusent à faire des wheelings et des stoppies. Et ça, le problème, c'est que les motards ne se rendent pas compte qu'ils sont ambassadeurs de la cause motarde. À chaque fois que tu fais une connerie, c'est tous les motards qui font la même connerie. C'est pareil pour les vélos, de toute façon. Quand il y a un vélo qui grille un rouge, c'est toujours pareil. On dit, les vélos, ils savent pas le code de la route. Donc, maintenant, la meilleure façon de lutter, c'est hélas de faire du lobbying. De toute façon, c'est le grand capital qui nous a prouvé que, puisque eux, au Parlement européen, c'est le grand capital qui a des lobbyistes payés grassement et qui permettent à Total de continuer à lever des fonds, etc., etc. Donc, il faut employer les mêmes organismes de lutte, c'est-à-dire que pouvoir faire du lobbying au Parlement européen. Et justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Éric Thiollier qui est passé ici à ce micro il y a quelque temps. Et il est le lobbying principal de la FFMC au Parlement européen.
Oh, mais ces gens-là, il leur faut de l'argent parce qu'il faut qu'ils se logent. Il faut qu'ils...
Et c'est pour ça que les 42 euros, oui. Ils sont employés très utilement.
Il y en a une partie qui va pour
le national,
aider ces gens-là.
Justement. Alors, si vous inscrivez, justement, il faut aussi souligner que il faut, sur le bulletin d'inscription, vous pouvez vous affilier à une antenne. Soit la 59, soit la 62, soit nationale. Mais si vous affiliez à la 59, il y a une partie de l'argent qui restera justement dans la région, dans le département. Alors que si vous affiliez au national, tout l'argent ira au national. C'est un point de vue un peu égoïste et personnel de gens du Nord. Mais vaut mieux faire vivre le département que le Natio. Mais de toute façon, une partie ira toujours au Natio.
Bon, tu nous parlais du Parlement européen, du lobbying.
Oui.
Et moi, je pense que tu allais nous parler du contrôle technique.
Oui, aussi, mais bon...
Pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. Dans la seconde séance, je vous ferai un exposé sur le guide du boycotteur CT.
Ah, d'accord. D'accord.
Donc...
Non, parce qu'on va faire du teasing, il y a des nouveautés. Il y a des choses qui se passent.
Il y a des choses qui se passent. Justement,
on ne dit pas, mais juste après le morceau de musique. Hein. D'accord.
Le problème, c'est que c'est un peu tard, parce que maintenant, il y avait une pétition contre le contrôle technique, et donc malheureusement la pétition est close le 2 décembre. Donc on vous l'avait répété de vous inscrire et de faire cette pétition. Elle est close c'est le 6 ou le 8. Le 8 qu'il y aura la présentation auprès du Parlement européen. Parce que effectivement, il fut un temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que au point de vue européen, les États avaient le droit de présenter leurs propres mesures pour remplacer le contrôle technique. Le problème, c'est que bon, les Français, gouvernement français qui est largement motophobe, au-delà de toute limite d'ailleurs, il n'a pas voulu s'emmerder avec ça. Mais par contre, on l'a eu l'expérience assez récente, les motards portugais, ils avaient le contrôle technique, ils ont réussi à le faire sauter. Hein, parce que rappelons que le contrôle technique, c'est une aberration et c'est juste pour tirer du fric. Alors on sait bien que la France est en déficit grâce à nos hommes politiques, mais ils n'ont aucune responsabilité dans cette histoire, évidemment. Ils ont les mains propres, manipulités, comme ils disent. Et donc, on est bien obligé de continuer à combattre contre ce contrôle technique. Donc, alors là, je vais passer là. Autre nouveauté, c'est que le bilan des morts de 2024 est paru sur le site Sécurité Routière. Alors. Là aussi, c'est une connerie des hommes politiques. Quasiment, le nombre de morts tués sur les routes, il est constant depuis une dizaine d'années. Ils ont beau dire qu'ils mettent des radars et autres, ça ne dit strictement aucune incidence sur la mortalité, parce que de toute façon, même dans votre vie de tous les jours, vous apercevrez que vous voulez faire une omelette et puis vous sortez les œufs du frigo et puis vous sortez la boîte à l'envers. Donc les accidents arrivent. Les accidents sont quasiment incompressibles. Et ce n'est pas la peine de vouloir se faire du fric en disant on va réduire les accidents. Parce que la cause réelle des accidents, ce n'est pas la vitesse, c'est la drogue, c'est l'infrastructure, c'est moralité de choses dépendantes des politiques.
L'éducation.
Et l'éducation, exactement. Et l'éducation, elle est très, très mal.
On en parlait en début d'émission, hein, l'égoïsme.
L'égoïsme, etc.
Ne serait-ce qu'à l'école. Il n'y a pas d'éducation routière à l'école. Ce serait déjà un grand début.
Mais bon, ça c'est... Et donc, c'est intéressant de regarder vite fait cette évolution des tués et des blessés. Alors effectivement, c'est toujours les hommes qui sont à 75% les victimes. Il y a eu 1518 morts en auto, 720 en deux roues et 456 en piétons. Ça, c'est un fait à noter. 224 en cyclistes, mais c'est un chiffre qui va augmenter fortement vu la façon dont les cyclistes respectent le code de la route. Et 45 en gyropodes, trottinettes, etc. Donc, c'est toujours pareil. Comme on disait au début de... Comme on disait en début de séquence, et ben, forcément... L'incivilité aura des incidences sur le nombre d'accidents et c'est pas un radar de plus qui permettra de faire baisser le nombre de morts.
Très bien, Jean-Yves. Écoute, on passe à un morceau de musique. Après, on va parler. Tu vas me parler du guide juridique du boycott.
Exactement.
Hein, c'est ça, hein?
Oui, ça ouais. C'est parce que
voilà, j'ai bon.
Il y a certainement beaucoup de choses que vous ne connaissez pas à propos de ce boycott et parce que beaucoup disent. Je peux plus vendre ma moto si je ne fais pas le boycott. Mais si, vous pouvez.
Tout de suite après le morceau de musique. Amis motards, bonjour. Le calendrier des motoclubs, c'est parti. Vous êtes président ou motard d'un motoclub ou d'une association et souhaitez publier les dates de vos manifestations dans le calendrier réalisé par Kikinkout et Toupal. C'est très simple. Par mail à l'adresse générique calendrier
kinc.fr ou sur le site de Kikinkout et Toupal, kinc.free.fr. Et c'est gratuit.
Jean-Yves, le guide juridique du boycott.
Bah, là aussi, je vous encourage à aller voir sur le site FFMC national, où il vous, sur 10 pages, il vous donne l'essentiel à savoir à propos du boycott, parce que le boycott est tout à fait légal. Alors d'abord, une première certitude, hein, la mutuelle des motards couvrira ses sociétaires de la même faction, qu'ils aient passé ou non le contrôle technique.
Quand tu parles de boycott, c'est pour le contrôle technique, c'est ça?
Ah oui. Hein, ah ben, oui, c'était le sujet de, ouais, de la séquence. faut savoir aussi que les autres compagnies d'assurance, la garantie tiers collision vous couvre obligatoirement. Donc, les dommages que vous pouvez infliger à d'autres usagers sont couverts par votre assurance. Après, vos dommages à vous, si vous boycottez, il se peut que vous ne soyez pas couvert. Mais attention, là aussi, il y a un problème. Enfin, il y a une astuce. C'est que si dans votre contrat d'assurance, il n'a pas été spécifié que votre protection existait si vous aviez souscrit, si vous avez passé le contrôle technique, surtout au renouvellement de votre contrat, vérifiez bien que vous êtes encore couvert sans contrôle technique. Ça, c'est un truc que les gens ne connaissent pas. C'est que si vous n'avez pas passé le contrôle technique et que votre assurance, dans ses clauses, n'a pas spécifié en toutes lettres et en gros caractères, en caractères normaux, que vous n'êtes pas couvert, bah, vous l'êtes.
Ça, c'est pour toutes les assurances.
Pour toutes les
assurances.
Pas que
pour la mutuelle. Hein.
C'est pas que la mutuelle, non, non. Alors, si, par contre, s'il y a un défaut d'entretien ou si effectivement vous roulez avec des pneus lisses jusqu'à la corde, votre responsabilité pourrait être engagée par l'ESPER qui vérifiera votre bécane. Ça, c'est... Alors, autre chose que l'on ne connaît pas forcément, c'est que les gens disent bah, si je passe le contrôle technique parce que je vends ma moto. De toute façon, vous pouvez vendre votre moto même si votre moto est recalée au contrôle technique. Et ça, c'est, les gens ne le savent pas parce que ça sera au
nouveau propriétaire de faire le contrôle technique.
De la mettre en règle.
Mais alors, tu lui mets le.
Ça fera baisser le prix de votre bécane.
Bah oui, c'est sûr, non, mais attends.
Mais de toute façon, si elle ne passe pas le contrôle technique, que ce soit vous ou le nouveau propriétaire, c'est toujours pareil, il va falloir remettre la moto en état. Alors, comment se comporter quand on subit un contrôle de la police pour vérifier que vous avez fait un contrôle technique? Alors, c'est d'abord avoir une moto irréprochable, mais de toute façon, si vous êtes un motard à peu près responsable, vous savez que si vous roulez sur une bécane avec des freins un peu faibles ou des pneus nazes ou un cadre tordu, des plaquettes usées, vous allez payer avec votre viande.
Ça s'entend, hein, donc, les plaquettes usées.
Ça, c'est, tous les motards le savent. Il n'y a que les hommes politiques qui ne se rendent pas compte que on est les premiers à payer dans notre chair le banc d'entretien de la moto. Bon, il y a un conseil aussi, soyez poli. N'essayez pas de faire de l'ironie avec un flic. En général, ils le perçoivent et ils n'ont pas
la souplesse
de caractère pour apprécier le second degré. Donc, prétendez que votre rendez-vous a été annulé, que votre centre de contrôle technique est fermé le jour où vous l'avez pris, que votre belle-mère s'est cassée la patte ce jour-là, donc vous avez dû la conduire à l'hôpital. Enfin bref. Soyez toujours prêts de toute façon, comme ce sont des infractions de catégorie 3 à 135 €, il faut être prêt à payer 90 €, parce que c'est 90 € l'amende réduite, si vous payez tout de suite. Un autre conseil, c'est de ne pas avoir sa carte grise originale, parce que le flic peut effectivement vous faire de la rétention de carte grise. Donc si vous n'avez qu'une photocopie, vous avez une amende de 11 €. Bon, ça se tire, mais vous avez quand même 5 jours pour aller à la gendarmerie pour présenter votre carte grise. Que faire en cas d'immobilisation de la moto? Alors, il y a une distinction très importante à faire, c'est de ne pas confondre saisie et immobilisation. La saisie implique la confiscation totale du véhicule et de la carte grise. Alors que l'immobilisation, c'est la saisie uniquement de la carte grise.
Oui. Bon. Très bien, Jean-Yves.
On va devoir couper, comme d'habitude.
Suite au prochain épisode.
Voilà. Donc, je vous recommande d'aller voir sur le site FFMC, le guide du boycotteur.
Très bien, merci Jean-Yves. Voilà. Bon, déjà, on sait pas mal de choses. Hein. Voilà, merci Xavier. Hein. Tu recommences quand, là le... Un record.
Donc, terminé. Peut-être, on verra.
Pour
les personnes âgées. Record chez les personnes âgées.
D'accord. plus de 70 ans. Merci Christophe pour le sommaire Motomag. Hein.
Eh ben oui,
et puis merci Jean-Yves, excuse-nous, là on est coincé avec le temps. Voilà. Mais c'est pas grave, on va aller sur le site de la FEDE. Est-ce qu'on se retrouve au mois de janvier? Oui? Non?
Ah bah moi je serai là.
Oui, oui,
maintenant, bien savoir comment on s'organise.
Voilà, on vous souhaite un bon dimanche. Évidemment, retrouvez-nous. On sera à nouveau rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur les ondes de campus. Allez.
Et de bonnes fêtes de fin d'année.
Salut à tous et bon dimanche. Au revoir.